Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, on ouvre maintenant comme chaque soir le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés dans le studio d'Europe Soir, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir Julien.
L'écologie, c'est décidément le sujet qui électrise la rentrée. Après le Tour de France, le sapin de Noël à Bordeaux, c'est le déploiement de la 5G qui électrise l'Assemblée nationale après les propos du chef de l'État contre les anti-5G, qu'il a qualifié d'amiche, qui s'éclaire à la bougie. Et désormais, ce sont les Républicains qui cherchent leur voix pour se faire entendre. Alors la droite a-t-elle trouvé son chemin vert, loin des dingos, comme le dit si gentiment le secrétaire général du parti, Aurélien Pradier.
Les Français sont en train de mesurer à quel point il y a ici ou là des dingos de l'écologie. Je refuse qu'on laisse ce sujet essentiel à des extrémistes et je pense que la droite a quelque chose de responsable à dire sur ces sujets.
Voilà, il a raison Aurélien Pradier, ce sont des dingos les écolos parce qu'il y a quand même en France une sensibilité écolo qui est assez marquée, c'est une réalité. 52% des Français mettent en avant l'écologie comme la première de leurs préoccupations. Catherine Ney.
Mais oui, oui, on fait partie de ces 55% de gens qui veulent préserver l'environnement, la planète, faire attention à la consommation d'énergie fossile. Mais on peut être écologique sans être vert, c'est-à-dire sans avoir une idéologie qui est punitive et qui se pique aussi de changer la société, de faire autrement qu'avant et de dénier aux Français de garder leurs habitudes, par exemple, Noël, c'est une remise en cause de Noël. Oui. Ce qu'a dit, donc c'est pas possible. Quand on voit le maire de Lyon qui refuse d'aller à la messe, comme faisaient tous les maires de Lyon chaque année, mais qui va poser au contraire la première pierre d'une mosquée, ça, on peut dire que c'est de l'islamo-gauchisme. En tous les cas, ça peut être interprété comme tel. En tous les cas, les Verts veulent changer la société, veulent changer la société française, veulent changer de société. Or, on peut être très bien écologiste en voulant continuer nos traditions. C'est ça la différence aujourd'hui.
Bien, et dans un instant, on parlera de ce qu'on vient d'entendre, Aurélien Pradier, parce que c'est vrai qu'il se passe quelque chose en ce moment chez les Républicains qui tentent eux aussi de trouver leur chemin vert, comme je le disais, avec un peu de malice. Peut-être d'abord un mot sur ce que le président de la République a dit, Gérard Carrérou, sur la 5G. Le président Macron a-t-il fait preuve d'une forme de mépris, comme le disent certains députés de l'opposition, en qualifiant les anti-5G, qui ne sont pas que des écolos d'ailleurs, il y a 65% des Français qui demandent un moratoire, selon le dernier sondage Opinionway, sur la 5G. Il les a qualifiés d'amiches qui s'éclairent à la bougie. Est-ce qu'il y a une forme de mépris là-dedans ?
Non, je ne trouve pas. Ou alors, on peut dire le général de Gaulle aussi, quand il évoquait le temps de ce qui était nostalgique, de la marine à voile, etc. Bon, je trouve qu'il a eu raison sur le fond. Sur l'affaire de la 5G, c'est un progrès. Moi, je ne suis pas un jusqu'au boutiste de la 5G. Mais je veux dire par là, ça fait
déjà,
partie.
Vous avez du mal à envoyer un texto,
2, 3,
alors c'est
oui,
vrai que la 5G,
oui,
pour
moi,
vous...
Mais non, mais moi, je suis un homme ouvert aux nouvelles technologies. Je ne suis pas un obscurantiste. Je suis ouvert à tout ce qui fait marcher le progrès.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un déni de la parole publique, parce que le président Macron s'était engagé auprès des citoyens de la Convention citoyenne à reprendre leurs propositions, et dans les propositions 149, il avait mis 3 jokers, mais pas sur la 5G.
Oui,
dans les propositions, il y avait l'idée d'un moratoire ou d'un débat sur la 5G.
Oui, alors ça, c'est effectivement, on est dans la politique. Il avait fait, effectivement, cette proposition de reprendre l'ensemble des propositions, sauf les 3 qu'il avait énoncé, et maintenant on dit « Ah ben alors il y en a une 4e qui nous sort du... » Donc il ne respecte pas. Bon, je veux bien que là-dessus, il ne soit pas content. Mais sur le fond, je trouve qu'il a raison. Et en ce qui concerne la question que vous avez posée à Catherine et à sa réponse, je suis tout à fait d'accord. Il y a 2 choses. L'écologie, c'est quelque chose de très bien. La défense de la planète, c'est très bien. Le parti écologiste, c'est très mal. Le parti écologiste, ils ont en permanence la tendance à devenir des Khmers verts,
oui.
C'est-à-dire des jusqu'au boutistes. On le voit, ils sont à peine élus dans les grandes villes, dans les principales villes où ils ont été élus, et ils sortent l'arsenal punitif, comme d'habitude.
Mais c'est vrai qu'il y a 2 courants au sein des écolos, et c'est peut-être ça que le président de la République est en train de jouer. Enfoncer un coin dans l'unité d'Europe Écologie Les Verts en opposant les écolos responsables, d'une certaine manière, selon lui, aux ayatollahs verts, comme vous le disiez, et comme le disent certains, Charles Villeneuve.
Moi, je suis sur la même ligne que Catherine ou que Gérard sur l'écologie idéologique qui punit et culpabilise.
Oui.
Bon, et on l'a vu à travers 2 grands maires, puisqu'ils sont à la tête de grandes villes, Bordeaux et Lyon. Mais vous posiez la question sur les républicains qui veulent trouver leur chemin vert. Il ne faut surtout pas que finalement ils finissent par leur chemin de Damas. Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de parts de marché à gratter pour les républicains sur cette écologie qu'on vient de définir, oui, punitive et culpabilisante. Si c'est pour les grands équilibres, et notamment climatique, bien sûr.
Oui.
Mais en même temps, il faut bien savoir que ceux qui ont beaucoup voté, enfin beaucoup, qui ont voté
pour
les écologistes, notamment aux municipales, c'est quand même beaucoup des radicaux de gauche et des bobos des centres-villes.
Oui.
Parce que l'abstention, il ne faut pas l'oublier, a été considérable. Et je ne vois pas très bien ce qu'ils ont à gagner, si vous voulez, parce que qu'est-ce qu'ils vont dire?
C'est les petites villes, quand même, qui ont voté pour un maire écolo. Il y a Tours, par exemple.
Enfin, c'est pas une petite ville. Oui,
c'est là où j'ai grandi. 100 000 habitants.
Oui, là où je suis né. Disons des villes moyennes importantes.
Mais ce n'est pas les bobos parisiens ou bordelais. Oui. Voilà,
non,
c'est
mais il y a des bobos, vous savez, il n'y a pas des bobos parisiens, il y a des bobos de Bordeaux,
il y a des bobos de Strasbourg, par exemple, parce que c'est 19% seulement, avec une abstention considérable, et on se demande où ils étaient, les autres. Bon, non, mais je veux dire par là, qu'est-ce que les républicains vont dire quand on va leur parler du nucléaire?
Eh bien, on va en parler juste après la pause. Et la droite dans tout ça, vous allez voir qu'elle tente de trouver son chemin vert. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, on est toujours ensemble avec le débat des grandes voix. Charles Villeneuve, Catherine Ney et Gérard Carrérou ce soir dans le studio d'Europe Soir. Et on parle de l'écologie. L'écologie qui désormais s'invite d'une certaine manière à droite. Les Républicains réfléchissent eux aussi à un programme écologiste. Les Républicains ont lancé une task force pour permettre, disent-ils, d'accoucher de propositions dès le mois d'octobre et ambitionnent, disent-ils aussi, de réconcilier la droite et l'écologie. Alors vous parliez, Charles Villeneuve, juste avant la pause, du fait que l'écologie, ça n'est pas intrinsèquement l'ADN de la droite, mais quand même, souvenons-nous que c'est Pompidou qui a lancé le premier un ministre de l'Environnement, c'était en 71.
Robert Pujade.
Jacques Chirac a lancé la charte de l'environnement, Nicolas Sarkozy a mis sur pied le fameux Grenelle de l'environnement, et puis, plus rien. Depuis, le désert. Alors qu'il y avait quand même des ministres, on pense à Nathalie Kosciusko-Morizet, on pense à Jean-Louis Bordeaux, qui incarnait cette couleur écologiste.
Qui était pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les deux marqueurs de l'écologie. Mais Nicolas Sarkozy aussi avait signé le pacte écologique présenté par Nicolas Hulot, avait réuni le Grenelle de l'environnement. Il y croyait vraiment. Il avait même voulu instaurer une taxe carbone.
Oui. Et puis, par contre, en 2011, ils disent l'environnement, ça commence à bien faire.
Non, il avait dit les normes, ça commence à bien faire aux agriculteurs. Ce n'était pas la même chose. Parce que les agriculteurs, qui ont déjà des normes à respecter, ils souffrent non seulement de normes écologiques sur les pesticides, tout ce que vous voulez, mais le ministère, l'administration du ministère de l'Agriculture fait vraiment de la surenchère par rapport aux normes bruxelloises. Donc il avait dit à un moment, les normes, ça commence à bien faire. Et ça a été traduit par l'environnement, ça commence à bien faire. Oui. Alors qu'il a été le président le plus écologiste, qui a essayé de convaincre au sommet de Copenhague, Obama, les Indiens, de faire quelque chose pour baisser, monter le prix de l'essence, enfin, des choses qui n'ont absolument pas été acceptées. Il s'est battu, il y a cru, et puis il n'a récolté poignées de main aimables.
C'est intéressant de voir qu'en France, on oppose souvent la droite peu écolo et la gauche très écolo. En Autriche, par exemple, la droite dure, très conservatrice, est alliée aux écologistes. C'est inimaginable en France. Pourquoi?
Oui, mais en France, il y a deux écologies. Il y a l'écologie, effectivement, celle que donc Catherine rappelait les grandes étapes à droite. Et puis, il y a l'écologie de tous ceux qui ne veulent pas, qui n'aiment pas notre mode de vivre. Et ceux qui n'aiment pas notre mode de vivre sont ceux qui dirigent les organisations, sont ceux qui prennent les postes lorsqu'il y a des élections. On le voit actuellement dans les mairies.
Pardon, mais Pascal Canfin, eurodéputé, il n'est pas tout à fait sur cette ligne-là, par exemple.
Écoutez,
il est plus modéré.
Regardez simplement qui ils avaient choisi. Rappelez-moi qui ils avaient choisi comme candidate à la présidentielle, les écolos.
Oui.
Hein, une dame magistrate qui était particulièrement sympathique, Eva Joly.
Oui.
Bon, voilà, au moment où il faut se déterminer.
La principale proposition a été de supprimer le 14 juillet.
Oui,
le défi.
Oui, voilà, ils n'aiment pas notre mode et notre façon de vivre. Et c'est vrai. Alors, effectivement, après, on peut décliner. On peut prendre. Est-ce qu'ils vont brûler nos centrales nucléaires?
Oui.
Bon, sans doute. hein, parce qu'ils vont trouver que ça va pas assez vite.
Les maires écolos, pardon, mais ils ont quand même été élus sur des programmes. Les gens ont voté pour eux sur des programmes. Alors j'entends que l'abstention a été forte.
Moi, j'ai pas vu que Charles Villeneuve. Il y avait la suppression du Tour de France et que de supprimer l'arbre de Noël.
Il a pas
dit
suppression du Tour de France.
Si, c'était machiste et
en tous les cas, les maires ne veulent pas recevoir le Tour de France chez eux, les maires verts.
Oui. Voilà. Ouais. Bon, mais très bien. Parfait. C'est pour ça que le maire de Lyon, d'ailleurs, est allé à l'étape.
Là, vous partez sur un autre thème. Mais sur l'écologie, Charles Villeneuve, est-ce que la droite peut être crédible sur ce sujet?
Moi, sur les grands équilibres, je pense profondément. Bien sûr. Bien sûr. Sur l'agriculture aussi. Bien sûr. Parce que, bon, mais cela étant, il faut se rappeler quand même que l'agriculture bio... C'est entre 5 et 10% de l'agriculture qui, non seulement, si vous voulez, progénère beaucoup d'emplois, mais par-dessus le marché à l'export. Qu'est-ce qu'on va dire sur les vins et spiritueux qui font partie, justement, d'une part importante de l'exportation et l'énergie nucléaire?
Je peux vous dire que là, le maire de Bordeaux, à mon avis, il ne va pas y toucher au vin et spiritueux. Quand on est maire de Bordeaux, on ne touche pas au vin.
Oui, il a intérêt, d'ailleurs, à le boire aussi. Parce qu'il y a quand même du Bordeaux.
Mais sur les énergies renouvelables, est-ce que vous croyez que on va se sortir, effectivement, de notre problème énergétique avec les énergies renouvelables seulement, qui représentent, en gros, aujourd'hui, 10 à 12% de notre énergie? Qu'est-ce qu'on fait, effectivement, de nos centrales nucléaires? Parce qu'à un moment donné, ils sont partis de là.
Mais personne
ne
veut supprimer les centrales nucléaires. L'idée, c'est d'augmenter le mix.
Est-ce qu'il fallait fermer Fessenheim?
Et les 25 réacteurs qui sont annoncés
pour 5 ans. C'est quand même une énergie décarbonée, il ne faut pas l'oublier. Et ça va dans le sens de... Mais tous les écologistes ne sont pas aussi, si vous voulez, radicaux que ça. Il y a quand même des écologistes qui ont réfléchi, etc. Jadot est un peu plus tolérant, un peu plus...
Vous êtes écolo, vous, Charles Villeneuve?
Moi, de toute façon...
Est-ce que vous mangez des fraises en hiver, par exemple?
Non.
Donc c'est une manière d'être écolo.
On n'est pas écolo si on mange des fraises en hiver.
Parce qu'elles poussent dans des serres chauffées, elles viennent d'ailleurs.
Ah oui? Et alors?
Elles viennent en avion.
Non, mais on s'habille bien de kilt écossais.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h49, on est toujours avec les grandes voix ce soir, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Et on poursuit la discussion avec cette affaire, la multiplication des faits divers qui font grand bruit, de logements squattés au nez et à la barbe des propriétaires. C'est le cas à Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre, où des squatteurs ont pris possession d'un logement. Avant cela, dans les Alpes-Maritimes, même chose, une famille arrive et trouve sa maison secondaire squattée. Impossible de déloger les occupants. La loi n'est pas de leur côté. Alors je pense qu'on est tous d'accord, j'imagine, pour dire que la loi était jusqu'à présent mal faite. Catherine Ney.
Elle était mal faite, mais elle était presque admise. Ça ne faisait absolument... Là, il y avait des... Ça venait en justice. La justice demandait que ces gens soient expulsés. Il ne se passait rien parce que leurs décisions n'étaient absolument pas appliquées. Et là, dans les deux cas que vous venez de citer, pourquoi tout d'un coup il y a un amendement du... Parce que la presse s'en est occupée. C'est parce que CNews, il faut lui rendre à César, a fait tout un sujet sur la maison de Théoule-les-Bains, puis récemment, hier et aujourd'hui, sur la maison que vous venez de citer.
Oui.
Et tout d'un coup, et là, les avocats qui plaidaient pour leurs clients s'aperçoivent que tout d'un coup, eh bien, le commandant de gendarmerie se déplace, que le maire se déplace et qu'on veut bien dire aux squatteurs de surtout s'en aller. Alors qu'avant, les décisions de justice sont données, peut-être après 2-3 ans d'occupation des maisons, et je veux dire, sans que... Oui. On en parle comme ça dans les journaux, mais ça ne fait peur à personne et ça n'inquiète personne.
Il ne faut pas en parler trop fort, sinon il y a de plus en plus de squatteurs qui vont investir les résidences secondaires.
Mais non, puisqu'ils vont être expulsés au bout de...
Petit sourire.
Non,
je voudrais juste qu'on écoute, pour que chacun comprenne bien, Henri Caloustian, c'est le propriétaire dont la maison a été investie par des squatteurs à Théoule-sur-Mer.
Avec la police municipale, la gendarmerie, et puis un adjoint au maire, puis un serrurier, on me dit on va ouvrir la maison, et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous, on va prendre des affaires, on va les jeter. Et bien à ce moment-là, les gendarmes ils m'ont dit, écoutez, monsieur Caloustian, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Désolé, les squatteurs ont tous les droits.
Alors, ça c'est le propriétaire, et puis de l'autre côté, il y a le squatteur qui dit ça.
Moi je comprends, je serai à la place des gens, je comprends tout à fait, je ne serai pas d'accord. Mais le problème, moi, c'est comme je connais la loi, je sais que la loi, elle est comme ça.
Alors précisément, aujourd'hui, que dit la loi? Eh bien, ça dépend. Résidence secondaire et résidence principale. On va commencer par ce qui est le plus simple. Résidence principale, il y a dépôt d'une plainte qui permet l'intervention des forces de l'ordre. A priori, ça va relativement vite. Résidence secondaire, c'est là qu'il y a un loup. La loi donne 48 heures pour porter plainte. Sans cela, le squatteur n'est plus expulsable. Il faut alors faire constater par un huissier de justice pour saisir la justice, pour obtenir l'expulsion. Et ça peut durer très très longtemps, entre un an et un an et demi selon les cas. Qu'est-ce que ça vous inspire, Charles Villeneuve ?
Jusqu'à 3 ans même.
Jusqu'à 3 ans.
Oui. Jusqu'à 3 ans. Il faut remonter quasiment jusqu'à la Cour de cassation pour obtenir l'expulsion. Et encore, cette expulsion, il faut qu'elle soit très 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 précise sur l'occupation illicite, parce que la force publique n'intervient pas aussi facilement.
Oui, et la loi est du côté d'ailleurs du squatteur, parce que si le propriétaire veut expulser lui-même le squatteur, il risque 3 ans de prison et jusqu'à 30 000 euros d'amende, alors que le squatteur, lui, il risque 1 an de prison et jusqu'à 15 000 euros d'amende.
La loi est ainsi faite. Les squatteurs, d'abord, sont parrainés, sont chapeautés par des organisations. Oui. Quand les squatteurs, si vous voulez, ont changé les serrures, qui n'ont pas de papier d'identité, qui sollicitent l'aide juridictionnelle...
Dans le cas d'espèce, ce n'est pas le cas, c'est pas le profil.
C'est le parcours du combattant. Non, mais dans le cas d'espèce, justement, ce qu'on oublie de dire sur l'affaire de Théoule-sur-Mer, c'est qu'en réalité, les squatters, il y a une violence conjugale qui permet d'interpeller...
Les gendarmes interviennent.
D'interpeller l'homme, monsieur, et puis ensuite
et sortent la famille.
D'expulser la mère de famille avec ses enfants, de les sortir, si vous voulez, de l'endroit où elle a subi ces violences et de les mettre chez l'abbé Pierre, à la fondation de l'abbé Pierre. Donc, c'est une circonstance très spécifique qui permet à M. Calistian de sortir et de récupérer,
son logement.
Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est la loi, l'amendement et pas la loi. Parce que moi, je pense qu'il faut refaire la loi et pas se contenter d'un amendement. Pour une raison simple, c'est que cet amendement ne reconnaît pas, si vous voulez, comme une occupation sans droit ni titre, les squats. Et à partir de là, vous pouvez juridiquement justement s'engouffrer dans cette brèche et faire durer l'affaire.
Il faut réformer le code civil qui donne exactement la définition de qu'est-ce que c'est qu'un logement. Voilà.
Mais précisons tout de même que depuis cette affaire, la ministre en charge du dossier du logement, Emmanuelle Wargon, a pris la parole et a annoncé alors moi j'ai vu un projet de loi, vous me dites un amendement.
C'est un amendement qui devait être voté aujourd'hui, je crois.
Oui, pour accélérer les procédures d'expulsion. Oui.
Déposé par d'ailleurs un compatriote, si vous voulez, de M. Caloustian, c'est M. Karbarian.
Guillaume.
Kasbarian.
Alors, l'amendement va permettre, il va falloir aller Jean vite Carreau. Quand on a, effectivement, je le dis aux auditeurs, s'il y en a qui sont concernés pour leur maison de campagne ou leur maison principale, s'ils sont sortis pendant quelques jours, il faut déposer plainte tout de suite et saisir, effectivement, dans les 48 heures, la préfecture. Parce que si on ne saisit pas dans les 48 heures, on retombe dans le cas de figure dont Charles parlait tout à l'heure. Donc il faut saisir rapidement de manière à ce que le préfet puisse faire intervenir la force publique. Vous voyez qu'il faut quand même aller très vite.
C'est le flagrant délit qui paye. Mais si on est là depuis 48 heures, le squatteur peut même mettre son nom sur la boîte aux lettres et il est chez lui.
Oui. Mais simplement, vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, Catherine a dit, c'est les médias. Je pense qu'effectivement, l'exaspération de l'opinion qui a été effectivement alertée par les médias, parce que c'est une affaire qui... Elle était tellement incroyable que... c'est ça qui a amené le gouvernement à réagir tout de suite. Mmh. Et moi, j'ai entendu le maire de Saint-Honoré-les-Bains, c'est-à-dire le deuxième cas dans la Nièvre, et il a dit, lui, ceci, les gens sont prêts à décrocher les fusils. Et un autre responsable élu a dit, si les Français ne sont plus protégés, ils feront la loi aux maires eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est à un niveau d'exaspération de la population que sur une affaire que les médias développent, ou bien on intervient comme aujourd'hui, tant mieux, c'est la loi, force reste à la loi, ou alors c'est la loi du lynch.
Bien, et on fera le bilan de cette nouvelle loi, de cet amendement, et on verra si les choses rentrent peu à peu dans l'ordre. Merci à tous les trois.
Europe 1, Julien Bugier.
Europe Soir continue évidemment dans quelques secondes avec le journal de 19h et le Club des Idées. On parlera ce soir du tourisme de demain. Vous allez voir comment les hôtels, les restaurants et les collectivités se réinventent. A tout de suite.